Bonjour à tous. Chercher sur Terre les preuves d'une vie extraterrestre, c'est l'étonnant pari de Nathalie Cabrol, dont les expéditions dans les milieux extrêmes nous font voyager aux frontières de la vie. C'est le titre du livre qu'elle publie au Seuil. L'astrobiologiste est aujourd'hui l'invitée de la grande table des idées. Mais d'abord, Wajdi Mouawad à l'Opéra de Paris. C'est une première pour le dramaturge qui fait revivre ici le mythe d'Œdipe, à la fois coupable et innocent, entre inceste et parricide. Et c'est le baryton britannique Christopher Maltman qui lui prête sa voix jusqu'au 14 octobre à Bastille. En parallèle, le metteur en scène reprend en octobre Tous des oiseaux, aux Gémeaux, à Sceaux et crée Mère au Théâtre de la Colline qu'il dirige. Sa nouvelle pièce y sera présentée de la mi-novembre à la fin décembre, avant tournée peut-être, qui sait. Bienvenue à tous autour de votre grande table sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Œdipe, c'est une tragédie lyrique en 4 actes et 6 tableaux du compositeur roumain Georges Enescu sur un livret d'Edmund Fleg. Gros succès à sa création en 1936, l'opéra était un peu tombé dans l'oubli. Bonjour Wajdi Mouawad.
Bonjour.
Et voilà, résurrection aujourd'hui, grâce à vous, avec vous, et vos chanteurs et l'orchestre sur cette scène de l'Opéra de Paris, l'Opéra Bastille. Pourquoi lui ? Le compositeur dit à propos d'Œdipe, un sujet comme celui-là, on ne le choisit pas, c'est lui qui vous choisit, il vous saute dessus, il vous empoigne, il ne vous lâche plus. Mais Enescu a dit plus ou pire, je sais pas, Wajdi Mouawad, il a dit, j'ai souvent pensé que réussi ou manqué, toute existence a son drame secret, mon ressort à moi, mon drame et mon aventure tiennent en 3 syllabes que Sophocle a rendu fameuse, Œdipe. Et vous, pourquoi lui ? Pourquoi Œdipe ?
Pourquoi Œdipe ? Je crois que... En fait, une œuvre, quand elle est grande, comme celle de Sophocle, elle vous révèle à vous-même. C'est-à-dire, elle ne vous apprend pas quelque chose que vous ignoriez. Au contraire, elle... fait apparaître quelque chose que vous portiez, mais que vous ne, c'est le cas de le dire, vous ne voyez pas. Et Œdipe, quand j'ai lu Œdipe, comme lorsque j'ai lu Antigone, comme lorsque j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des œuvres qui m'ont fait voir la part de, au fond, de chagrin que je pouvais porter. Et que, parce que dans la vie du quotidien, par la vie de tous les jours, ce sont des choses qu'on évite, parce que le monde, les parents, nos parents ne veulent pas qu'on, voilà, nous, veulent nous protéger, parce que l'école, etc., tout contribue à détourner de notre regard, on va dire, cette pierre sombre et miraculeuse en même temps qui est le chagrin. Je dis miraculeuse parce que c'est une pierre qui sointe tout le temps sans arrêt, mais qui est très difficile à regarder de face. Et Œdipe, pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis, un peu comme la métamorphose de Kafka, quand j'ai lu la métamorphose de Kafka, où il était question d'un jeune homme qui, un matin, au sortir de rêves éveillés, se retrouve métamorphosé en une horrible coquerelle. J'ai eu véritablement, pas seulement le sentiment, mais l'absolue conviction qu'il s'agissait de moi et que cette œuvre me permettait de voir quelque chose que je ne voyais pas de moi. Œdipe, c'est un peu la même chose.
Et dans un moment, vous aviez peut-être envie de le voir, parce qu'on peut se dire qu'on n'a pas forcément envie d'être chargé de la tristesse ou du malheur des autres. Et il emporte sur ses épaules ce personnage d'Œdipe, tel que vous le mettez aussi en scène aujourd'hui à l'Opéra de Paris. Vous avez trouvé en lui, au contraire, une sorte d'écho fraternel, là encore pour reprendre les mots du compositeur Georges Enescu.
Œdipe ne devait pas exister, et pourtant il existe. C'est-à-dire, son père a commis une faute terrible, il a violé un enfant, et parce qu'il a violé un enfant, Apollon lui interdit d'avoir un enfant à son tour. Quand Apollon interdit à Laïos d'avoir un enfant, ce qu'il lui dit en substance, en creux, il lui dit... Tu devais avoir un enfant, donc potentiellement, il y a un enfant qui existe, qui est le tien. Mmh. Et bien cet enfant qui aurait dû exister, ne doit pas exister. Donc, mais pourtant, Laïos va faire exister cet enfant, mais Œdipe ne le sait pas. Œdipe est celui qui n'aurait pas dû exister, mais qui l'ignore. Et qui devient dépositaire d'un héritage, dont il va être dans sa chair, profondément dans sa chair, le porteur, il va le porter, il va le vivre, il va être traversé par cet héritage qui n'est pas le sien, mais dont il devient le dépositaire. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui appartient aussi aux gens de ma génération, c'est-à-dire, j'étais enfant et je suis devenu héritier d'une guerre civile et qui a tout transformé dans ma vie. Je vis une vie qui n'était pas celle que j'aurais dû vivre. Je suis là avec vous à la radio, je ne devrais normalement pas être ici, je devrais normalement être dans mon pays et en train de parler une langue qui est la langue maternelle. Je ne parle plus cette langue, je ne vis plus dans ce pays. Je vis une vie qui n'est pas nécessairement la mienne, j'ai des enfants qui ne sont pas les enfants que j'aurais dû avoir. J'ai des bonheurs en même temps, parce que ça qui est paradoxal, c'est que tout ce chagrin a été aussi la cause de bonheurs absolument extraordinaires. Si la guerre civile n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas découvert le théâtre. Je n'aurais pas eu les enfants que j'ai, je n'aurais pas connu les joies immenses d'avoir les amis que j'ai. Donc il y a quelque chose d'en effet complètement paradoxal d'avoir des bonheurs immenses à quelque chose d'absolument effroyable.
C'est dans ce sens aussi que Sophocle est un auteur qui vous parle. Hein. Vous avez presque adapté tout Sophocle déjà, voire toutes les pièces qu'on connaît, en tout cas de lui, Antigone, Électre, les Trachiniennes, mais aussi Œdipe Roi. C'est un auteur qui vous ressemble hein, d'une certaine manière. Vous l'évoquiez avec cette idée d'une vie qui relève de la tragédie. Votre vie à vous, Wajdi Mouawad.
Oui. Il y a Sophocle, mais j'ai parlé de Kafka, mais je pourrais parler de Maria Zambrano, qui est une philosophe espagnole, je pourrais parler de certaines personnes dans ma vie. Je crois vraiment qu'on est éclairé par les autres. On est éclairé par des œuvres, et c'est l'éclairage des autres qui nous amène à nous connaître, à mieux nous connaître. Dans Sophocle, ce qui m'a toujours profondément touché, c'était cette notion de révélation, que ce soit Ajax, que ce soit Antigone, le personnage de Créon dans Antigone, ou que ce soit Œdipe. Il y a toujours ce moment où ils voient qui ils sont. Mais il y a une chose qui est vraiment, vraiment très importante, que Sophocle répète, parce que Sophocle, mais les Grecs en général, ils étaient omnibulés par cette idée de la connaissance. Rien n'était plus important que de se connaître soi-même, qu'on se connaît toi-même, mais c'est très dangereux de se connaître soi-même, parce que si on va trop vite, on se crève les yeux, comme si quelque chose semblait nous dire « connais-toi toi-même, mais fais attention ». Fais attention, c'est dangereux. Et quand je pense, par exemple, là, c'est sûr que je fais toujours des liens avec l'histoire du Liban. Il y a quelque chose aussi dans cette histoire de la guerre civile qui relève du même aveuglement, qui relève de la même démesure, de la même folie, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Liban est toujours gouverné par les mêmes chefs de clan qui ont fait la guerre et qui sont pour la plupart responsables de la guerre civile et qui sont encore là et qui empêchent les gens de vivre. Alors pour moi, il y a vraiment une relation directe que je fais. Sophocle me permet de... Sophocle est probablement le plus grand auteur libanais. Mais je pense que les Japonais pourraient dire la même chose et c'est tellement un auteur génial.
Fouille mon peuple, toi qui seras l'assassin de ton père. Qui pour multiplier ta race meurtrière sera le mari de ta mère. Oh. Cherche-tu si de croire à ma destinée, au fond des forêts j'ai tué ma pensée. Et l'implacable mienne, protège-moi de moi, je veille ce qui meurt.
Tiens-toi!
Rêve, Polybos, très bien, mon adversaire, et mon poignard jaloux, fouille son cœur ouvert. Et mes bras, que le sang paternel enveloppe, et traîne-toi la nuit, l'image de mes robes.
Tiens-toi!
Je déteste, je partirai à voler fatal. Les chépines sont les étoiles, je marcherai dans l'air serein jusqu'au jardin des Hespérides, jusqu'au glaçons immédia dans le brouillard plus gris j'irai sans but et sans espoir mortel loin du golfe tranquille se baigne mon ciel.
Un dialogue entre Œdipe et sa mère adoptive, extrait de l'acte 2 de cet opéra que vous mettez en scène actuellement à l'Opéra de Paris, Wajdi Mouawad. Elle est intéressante, cette idée de quête aussi des origines. Vous disiez « connais-toi toi-même », mais il faut y aller lentement, mais sûrement passer par certains détours au risque de se brûler les yeux. Lui va pas tout de suite prendre la direction de la quête, hein, Œdipe, de la recherche. Et il va se construire autrement et il va rencontrer son passé, il va rencontrer son destin au fur et à mesure. Cette question des origines, elle travaille aussi votre nouvelle pièce, celle que vous créez en ce moment au Théâtre de la Colline et qui fait partie d'un cycle que vous avez entamé, le cycle domestique avec Seul et Sœur. Elle va s'intituler cette fois Mère. Est-ce que c'est en passant par les œuvres des autres aussi, petit à petit, en engageant ces détours que vous vous êtes senti prêt à aller plus directement dans une quête autobiographique, dans des pièces qui parlent plus directement de vous?
Oui, nécessairement, il y a quelque chose... On s'approche de soi lentement, hein, vraiment. On s'approche de soi très lentement, et pour ça, il faut passer par l'autre, par les autres, par les regards que les autres ont eus sur eux-mêmes, par la fiction, en tout cas pour moi, par la fiction. Oui. Et ce cycle domestique, il est né suite à... la création de quelques spectacles qui étaient des spectacles vraiment épiques, qui duraient longtemps, incendie, forêt, littoral, avec beaucoup d'acteurs, des épopées, on va dire. Et j'avais ressenti le besoin de partir d'éléments hyper autobiographiques. Voilà. Et comme je suis né dans une famille où il y a eu donc bon un père et une mère, et puis trois enfants, de l'endroit où je suis, qui est celui du cadet, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un père, j'ai une mère, et j'ai moi. Donc je me suis dit que j'allais faire 5 spectacles qui allaient s'appeler donc père, mère, frère, sœur et seul, donc moi. Et l'idée, c'est de partir toujours de l'hyper-autobiographique, vraiment. Même en essayant de faire en sorte d'y rester le plus longtemps possible et de voir comment... Parce que le théâtre, c'est quelque chose de très concret. Il y a de la lumière, de la vidéo, il y a du texte qu'il faut écrire. Et puis aussi parce que la mémoire, elle est trompeuse. La mémoire, elle dévie les choses. Et de voir comment on dérive petit à petit, alors qu'on croit être encore dans l'hyper-autobiographie, comment la dérive nous mène au fond vers la fiction. Et ça m'intéressait vraiment. Donc après, Seul et Sœur, j'aborde un continent tout à fait particulier qui est mère. Voilà.
C'était le plus difficile ou c'est la plus difficile à écrire, cette pièce-là?
Le cas est tout à fait particulier, c'est que j'étais très jeune quand ma mère est morte. Elle est morte dans une situation un peu particulière qui était que après, nous étions venus à Paris pour attendre la fin de la guerre civile au Liban, en 78, dans l'idée qu'on resterait que 3 mois avant de revenir au Liban, mais finalement on est resté 5 ans à Paris. Au bout de 5 ans, on ne pouvait plus retourner au Liban parce que vraiment la guerre était épouvantable. Et la France ne nous a pas donné de nouveau permis de séjour, donc il fallait partir. Ça a été le Canada. Et arrivé au Canada, un an après, ma mère est morte. Donc il y a quelque chose de tellement furtif dans le rapport que j'ai eu avec ma mère. Et ça, c'est ça qui rend la chose particulière, c'est que je ne l'ai pas vue depuis 34 ans. Et donc, alors que mon père, bien, enfin, je l'ai connu très 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 vieux. Enfin, voilà, ma sœur est encore en vie, mon frère est encore en vie. Voilà, donc quand je fais les spectacles à partir de ma sœur, je peux l'appeler, je peux lui poser des questions. Là, ma mère, c'est très lointain. L'autre particularité, c'est que comme j'ai voulu m'attarder sur les 5 ans que nous avons passés à Paris, le spectacle s'attarde sur ces 5 années où ma mère était seule avec ses enfants, alors que mon père était au Liban pour continuer à travailler. J'ai voulu raconter comment petit à petit elle est devenue folle d'inquiétude, comment la guerre, au fond, l'a complètement défaite. Et à la maison, à Paris, on parlait l'arabe. Donc, pour adhérer à cette réalité, j'ai engagé donc des actrices libanaises. Et alors, il se trouve que donc, c'est le premier spectacle de tous les spectacles que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sais pas, j'en ai fait une quarantaine peut-être, c'est le premier spectacle en libanais. Quand même, quand je disais tout à l'heure, il faut du temps pour revenir à soi. Alors ça fait 40 spectacles que je fais pour revenir à un spectacle dans ma langue maternelle. Ça raconte le chemin quand même aussi. Puis ça c'est très émouvant parce que j'écris en français, mais ensuite avec les actrices, on le traduit en libanais. Et en le traduisant, je me rends compte qu'au fond, même si j'écris en français, j'ai toujours écrit en arabe. Au fond, j'ai toujours instinctivement et presque inconsciemment traduit de l'arabe au français. Et pourquoi j'écrivais en français? C'est parce que je travaillais avec des acteurs québécois, je travaillais avec des acteurs français, donc je dois leur écrire en français. Et là, de tout à coup, écrire dans la langue originelle, alors ça, c'est vraiment particulier. Vraiment, ça, c'est... Aujourd'hui, c'était la première répétition.
Mais il y avait de l'arabe aussi dans Tous des oiseaux.
Ouais, mais c'est pas le même arabe, c'était un arabe classique. Et là, c'est vraiment du libanais. C'est le libanais de la maison. Le libanais que je parlais, que ma mère me parlait, avec lequel elle me grondait, etc. Donc, non, c'est vraiment un arabe qui est l'arabe de la chair, en fait, vraiment.
Incendie, votre pièce, qui fait partie d'un premier cycle, le cycle Le sang des promesses, cette tétralogie qui regroupait littoral, incendie, forêt et ensuite ciel, posait déjà la question de l'inceste, hein, de la relation à la mère, du destin. Incendie relevait aussi de la tragédie, posait la question de la vérité, c'était derrière les derniers mots, la vérité est faite, le fil de la haine est coupé. On retrouve exactement cette idée-là dans cet Oedipe. Dans Forêt, troisième volet de votre tétralogie, il y avait aussi cette idée de la fatalité qui était déjouée, là encore, comme dans cet Oedipe, cette idée de briser l'héritage de la haine. On retrouve quand même cette question qui est au cœur de votre œuvre, de la famille, des familles brisées, des familles qui tentent de se recomposer aussi à travers la mise en récit. Hein.
La guerre civile libanaise, c'est le postmodernisme avant le temps. Quoi. C'est tellement de la déconstruction du récit. Je connais personne qui est capable de raconter l'histoire de la guerre civile libanaise. Ça veut dire que c'est...
Et surtout pas les Libanais eux-mêmes.
Et surtout pas les Libanais. Et surtout qu'ils ne veulent pas raconter la plupart du temps. Ils ne veulent même pas se souvenir. Entre l'amnésie est très forte. Mais je pense que ça a tellement fracturé les gens que moi, par exemple, ma famille, j'ai un frère qui s'est retrouvé à San Diego. J'ai une sœur qui à Montréal. Un père qui est mort là-bas. Ma mère qui est morte ici. Moi, je vis en France. Enfin, c'est tellement explosé. C'est tellement éclaté qu'il y a, une chose, surtout quand ça arrive dans l'enfance, on a toujours le même âge du traumatisme. Hein. Je veux dire, moi, j'ai toujours 7 ans. Hein. J'ai toujours l'âge que j'avais quand j'ai vu cet autobus se faire mitrailler par des miliciens chrétiens quand ils ont arrêté un autobus palestinien en bas de chez nous et qu'ils l'ont mitraillé. J'étais là, j'ai vu ça du balcon. J'ai toujours 7 ans. C'est pas compliqué. Et donc, à partir de là, un enfant, vous voyez, je sais pas si vous avez des enfants, mais quand un enfant fait tomber un jouet et que ce jouet se casse, qu'est-ce qu'il se fait? Il se précipite sur ce jouet, il prend les deux morceaux, il essaye de les recoller ensemble instinctivement. Et puis, moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui est cassé, j'essaye de le recoller, et chaque fois que j'essaye de le recoller, ça donne une pièce de théâtre, on va dire. Je schématise, mais c'est à peu près... Donc oui, la famille, elle revient comme une chose qui ne trouve pas sa consolation, comme quelque chose qui a besoin d'être raconté encore et encore. C'est pour ça, enfin, j'ai beaucoup de difficultés à assumer le titre d'artiste ou d'auteur. J'ai l'impression plutôt d'un enfant qui ne s'en remet pas, plus ça. Et qui t'a trouvé dans l'art, à portée de main, une chose à faire qui est l'écriture et le théâtre. Mais ça va pas plus loin que ça, je dirais, vraiment.
Votre mise en scène dans cet opéra, dans cette tragédie lyrique, Oedipe, Wajdi-Mouawad, elle mobilise vraiment tous les moyens qu'on pourrait imaginer sur cette grande scène. Tous les moyens aussi de l'opéra, les costumes sont dingues, les coiffes, les perruques, les décors aussi, ces grands panneaux que vous déployez, cette étendue d'eau aussi dans le dernier acte de cet opéra. On sent que vous avez aussi pris plaisir à jouer avec cette démesure que l'opéra vous offrait. Hein. On le disait, c'est pas le premier opéra, mais c'est votre premier opéra de Paris. Mmh. Et elle est assez importante, assez imposante, cette scène aussi, hein, à occuper.
Ah oui, c'est impressionnant parce que c'est une largeur de, je sais pas, 35 mètres, c'est une profondeur de 50. Il y a 80 personnes qui forment le chœur, il y a 30 enfants, il y a 80 musiciens. Enfin oui, c'est vraiment... Et puis surtout, les dimensions, c'est-à-dire la première chose que j'ai fait, c'était de m'asseoir dans la salle au dernier rang, en haut du dernier balcon, pour voir ce que un spectateur verrait. Et là, quand vous êtes là, vous vous rendez compte que il faut une largeur dans le mouvement, dans le geste, dans la hauteur des murs, dans la précision des, dans la radicalité des choix qu'il faut faire. Donc ça vient aussi de choses très qui ne sont pas que théoriques, vraiment loin de là, qui viennent aussi de la réalité de l'espace dans lequel on travaille avec Emmanuel Claudius et Emmanuel Thomas et Cécile Kretschmar, celle qui s'est occupée des coiffes. On s'est assis dans la salle et on s'est dit, il va falloir quand même que ça soit visible. Ne serait-ce que ça, que ça soit visible. Et à partir de là, ça s'impose à vous. Le lieu est tellement puissant que moi j'avais l'impression de travailler sur une raffinerie de pétrole, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est quand je revenais à la colline, j'avais l'impression de retrouver un petit voilier, quoi. C'est énorme. On peut mettre deux fois la cathédrale Notre-Dame dedans. Enfin, il y a 6 sous-sols. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux.
Passe dans la vie d'Oedipe, hein, surtout dans cet opéra qui a mélangé, fondu les deux tragédies de Sophocle, Œdipe roi, puis Œdipe à Colone. On a vraiment la vie d'Oedipe, de sa naissance à sa mort, la vie d'un homme. Le temps passe et les saisons passent aussi sur la scène avec vous, Wajdi Mouawad. Il y a même des éléments assez futuristes, à travers notamment la scène et la représentation que vous donnez de la Sphinge dans son grand cercle noir, cette fille du destin. Entre Star Wars, Game of Thrones, Dune, que vous avez peut-être vu, qui est en ce moment au cinéma. Vous aviez envie d'introduire aussi des éléments du futur, comme ça ?
Alors, non, en fait, voilà, c'est vraiment, merci pour la question, c'est intéressant parce que ça permet d'expliquer au fond, justement, l'aveuglement dans lequel on est quand on crée. Bon, la Sphinge, elle est aux portes de Thèbes. Alors, moi je suis là, ok, aux portes de Thèbes. On va quand même pas mettre des portes. Ok, bon, la question, t'irais où, toi, si t'étais une sphinge et que tu devais aller à la porte de Thèbes? Ok, j'irais où? Est-ce que je me coucherais? Parce que quand on lit le texte très précisément, elle dit, ouais, regarde, elle est couchée là et tout. Bon, je me suis mis à regarder des villes et de regarder un peu les pourtours des villes avec Emmanuel Claudius, le scénographe. Et puis à un moment donné, on est tombé sur l'idée des égouts. Et en fait, elle est dans les égouts. C'est les égouts. Voilà, c'est l'endroit où les eaux sales sont rejetées. Et donc, on a fait des égouts, mais comme il faut, comme je le redis, être un peu gros pour être visible, on a fait des gros égouts, ce qui a fait cet énorme cercle. Et là, on s'est dit, ouais, mais ce serait bien quand même qu'il y ait quelques cadavres autour d'elle, parce que quand même, elle en a bouffé quelques-uns. On va faire des tas de cadavres. Alors, on a fait des tas de cadavres, et là, tout à coup, les images nous sont arrivées, ceux des Syriens torturés sous Assad, des photos qui ont été faites des cadavres syriens, évidemment de la Shoah, évidemment, ça renvoyait à un tas d'imaginaires qu'il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met vraiment en avant, en arrière? Alors finalement, ces corps, on les a mis juste derrière la sphinge. Ils sont très peu visibles, mais ils sont là. Donc c'est un peu de cette manière-là que se construit une scénographie, mais du coup, les références que vous faites ne sont pas les premiers éléments qui sont là, mais ils doivent nécessairement travailler notre inconscient, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je suis un fan absolu de Star Wars et de tous ces films-là que je connais par cœur, un peu comme on connaît l'Iliade et l'Odyssée. Mmh. Enfin, vraiment, Voilà.
Et dans la ville, il y a la peste, hein, la peste oui. qui fait rage d'une épidémie à l'autre. On retrouve certains de vos chanteurs masqués sur oui. la scène de l'Opéra de Paris. Et là encore, on imagine que c'est un parti pris qui se retrouve aujourd'hui et qui nous rappelle que le temps passe, certes, mais que les épisodes dans le malheur aussi se répètent. Il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé aborder encore avec vous, Wajid Mouawad, mais pour en garder une... On recevra demain, autour de cette grande table culture, un artiste, c'est Jean-Michel Autoniel. Il a mis en scène, lui, un théorème de Narcisse à sa manière. Il est artiste plasticien au Petit Palais à Paris. Vous savez, Narcisse, c'est celui qui tombe amoureux de son reflet, hein, qui va finir transformé en fleur. Il se contemple lui-même et peut-être qu'à travers son image, il contemple aussi le reflet du monde. On peut s'imaginer, vous pensez, Wajdi Mouawad, un dialogue entre Œdipe et Narcisse. S'ils se rencontraient, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils se diraient ?
S'ils se rencontraient après leur mésaventure, je pense qu'ils iraient quand même l'ego. Quand même, quelle plaie, quoi ! Si on pouvait se débarrasser... Alors non, mais vraiment, l'ego, c'est une plaie. Et je pense qu'ils feraient tous les deux un voyage en Inde, quelque part, comme ça, pour essayer de se débarrasser de la notion de l'ego, le moi, le je me, moi, me connaître, tout ça. Enfin, vraiment, je pense que le gros truc serait, s'ils se rencontraient, serait, toi alors, l'ego, moi ça m'a vraiment mal fini, et toi, oh bouffe, ne m'en parle pas. Comment on pourrait se débarrasser de ça, quoi? Comment on peut se débarrasser de soi? Et je pense que cette question de l'ego, elle est vraiment, elle serait vraiment une magnifique conversation entre les deux. Mais il faudrait que ça arrive après leur mésaventure.
Merci beaucoup, Wajdi Mouawad, d'être venu autour de cette grande table culture. Merci d'avoir pris le temps. Je rappelle qu'on peut donc retrouver Œdipe sur la scène de l'Opéra Bastille jusqu'au 14 octobre. Tous des oiseaux, ce sera du 6 au 17 au Théâtre des Gémeaux. Mère, ce sera au Théâtre de la Colline, votre nouvelle création, en novembre jusqu'à la fin décembre. Merci.
Merci.